Hugonine. Dans la pièce de théâtre, il est caractérisé comme un mélange de parasites, de bouffons et d'argent politique qui accompagne toujours le roi. Il occupe le rôle de courtisan qu'on connaît dans le théâtre classique. C'est lui qui, dans le marché, divertit le peuple par ses chansons et ses commentaires. Des fois très grotesque, il parvient à détendre par des plaisanteries une atmosphère un peu tragique. Mais derrière ce masque de bouffon se cache un sage capable de dire la vérité et émettre une critique sans blesser le roi. Aussi ramène-t-il le roi Christophe à la raison en lui disant que les peuples vont de leurs pas, majesté. Acte 13, scène 6. Il transforma parfois donc la scène en une petite comédie et instruit en faisant rire. Madame Christophe, elle était une servante à l'auberge de la couronne. Acte 1, scène 7. C'est un personnage simple, humble et très lucide. Elle avertit son mari de sa démesure et le refraine durant ses moments d'aveuglement. Patiente épouse, elle assiste son mari jusqu'à sa mort. Chanlatte, il est le poète national. 3. Les opposants du roi. Pétion, il est mulâtre et c'est lui qui essaie de tromper Christophe en lui offrant un pouvoir sans croûte ni mie. Il est envoyé par le Sénat et il veut surtout le pouvoir. Et s'allié au roi français Louis Grand XVIII Bonparleur, il défend la cause des mulâtres. Cependant, ses manœuvres machiavéliques vont se retourner contre lui et il est remplacé par Boyer. Métellus, il est un guerrier accompli. Même s'il est contre Christophe, il n'est pas avec Pétion. Il était le compagnon de lutte de Toussaint Louverture et est prêt à donner sa vie pour l'unité de la nation. Il est sur le plan héroïque le double de Christophe. Corneille, Brel, puis Juan de Dios González. Il représente la religion et l'Église catholique. Ce sont des blancs. Corneille, Brel revendique le droit de repos et le roi le soupçonne d'être un allié des blancs pour déstabiliser son régime. D'ailleurs, c'est son spectre qui va frapper le roi Christophe. Aussi est-il remplacé lors de la cérémonie de couronnement. Le second, avec ce nom d'origine espagnole, est une sorte de parasite et n'inspire pas confiance non plus. Quatre les autres personnages, le duc de la Limonade, le duc de Dondon, le duc de Saltrou, le duc de Plaisance, Magny. À travers le nom exotique de la France métropolitaine, se cache une volonté de critiquer la puissance occidentale. Ils seront les premiers à trahir le roi. Grand 6, les thèmes développés par Césaire dans cette pièce sont nombreux. L'esclavage, l'exploitation, la politique, l'économie, les infrastructures, l'indépendance, la liberté, la révolte ou rébellion, la famille, la guerre, la confiance, la trahison, la colonisation, la tradition vaudou, le travail, la démesure du héros, la solitude du héros, l'héroïsme, etc. La lecture de cette pièce permet d'en saisir l'importance. Et cette variété des thèmes s'explique par le fait qu'ici, il s'agit de la création d'un État. Et un État, c'est tout. Grand 7, la dramaturgie de Césaire dans la dramaturgie de Césaire. Tout repose sur le temps historique et l'espace scénique à la fois réel et idéal. Brièvement, on peut les étudier comme suit. Un espace et temps, dans la tragédie à le temps. Le premier acte est consacré à la période qui couvre 1806 à 1812, c'est-à-dire du moment de sa sécession jusqu'à la célébration de l'anniversaire de son couronnement. Les actes 2 et 3 occupent un temps historique de 8 ans et mettent en scène le règne de Christophe jusqu'à sa mort en 1820. Ainsi, le dramaturge ne prend en compte que les moments significatifs de la vie de la cour royale, ainsi que les décisions importantes qui ont été prises et qui ont abouti à la fin tragique. B. L'espace. L'espace est souvent précisé dans la pièce. On le marché du Cap, le palais, la cathédrale du Cap, le champ de bataille, devant Port-au-Prince, au Sénat, dans un salon bourgeois, etc. Ces indications de lieux précises créent en quelque sorte la vraisemblance. Et le roi parcourt presque tous les lieux, ce qui fait que la scène est très mobile. Césaire exploite le prologue avec un début qui met en scène un combat de coq. Ainsi, il annonce, voire résume le ressort de la pièce. Mais à l'intérieur de la pièce, les péripéties sont entrecoupées de divers types théâtraux. 2. Un théâtre total, le vaudeville. Le vaudeville est une comédie légère dont l'intrigue repose essentiellement sur le quiproquo ou malentendu, le rebondissement et les situations grivoises, grossières. Hugonin est l'acteur accompli de ce vaudeville. Durant la fête, la plaisanterie en offre des exemples. « Dis donc la belle, ce n'est pas du rapadou que je veux, c'est de toi, doudou, pas de tasseau, te donner l'assaut, ma doudou, le ballet ?» C'est une chorégraphie réalisée par une troupe de danseurs. On a le ballet durant la fête de couronnement du roi Christophe. Le dramaturge réalise ici un théâtre total, en exploitant à la fois la musique, le chant et la danse. Conclusion : la tragédie du roi Christophe est devenue un classique du genre. Ne respectant pas les règles de la tragédie classique, elle est surtout un mélange des techniques modernes et anciennes de théâtre. Et on pourrait même dire qu'elle est un drame africain. Tellement il est original et s'écarte des théâtres occidentaux. Le comique et le tragique s'annulent, le vaudeville s'y exprime, l'histoire est le fil d'Ariane qui mène de bout à bout l'action. Et la musique, le chant et la danse sous forme de ballet fait de cette pièce un théâtre total, un théâtre africain.